Bonjour à tous, merci pour votre accueil. J'ai choisi quelques versets bibliques, bien sûr, sur lesquels j'expliquerai ce choix tout à l'heure dans ma prédication. Il s'agit tout d'abord d'un premier verset tiré de l'Exode, le chapitre 25, le verset 1 et 2. « Vaydaber Adonai, l'Éternel parla El Moshe les morts, il parla à Moïse en ces termes. « Daber El Bnei Israël, invite les enfants d'Israël, Vaïkrouli Trouma, et ils me prépareront une offrande. » Mais et kol ish asher yid beno libo, de la part de quiconque qui sera porté par son cœur, vous recevrez mon offrande. Voilà ce premier passage que je me proposerai de commenter tout à l'heure. Et quelques versets plus tard, un verset très paradoxal, très étrange, qui paraît tout à fait normal, mais qui est bien intéressant de travailler. Asuli Mikdash, et ils me construiront un sanctuaire, c'est donc Dieu qui s'adresse à Moïse, et ils me construiront un sanctuaire, Veshachanti Betoham, pour que je réside au milieu d'eux. Donc je fais une sorte de teaser en quelque sorte, il s'agit de construire un sanctuaire où Dieu ne résidera pas, mais Dieu résidera chez les constructeurs plutôt que dans la construction. Voilà les deux versets que j'ai choisi de commenter par devant vous ce matin. Donc, alors, Oui, c'est le cantique 69, c'était à moi de l'annoncer, effectivement. Donc, le cantique 69. Je vous propose ce matin la lecture avant la prédication d'un psaume qui quelque part annonce cette prédication. Il s'agit du psaume 19 qui est construit de manière curieuse. Les historiens pensent d'ailleurs qu'il a été abouté, les deux parties différentes ont été aboutées en une seule mais qui forment une magnifique unité. La première partie de ce psaume est consacrée à la création et la deuxième partie à la loi. Donc deux sujets différents mais qui bien sûr s'imbriquent l'un l'autre. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout, et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire, elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité, toutes elles sont justes. Plus désirables que l'or et quantité d'or fin, plus savoureuses que le miel nouveau. Ton serviteur lui-même en est éclairé, il trouve grand profit à les garder. Qui s'aperçoit des erreurs ? Acquitte-moi des fautes cachées. Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il n'ait pas d'emprise sur moi. Alors je serai parfait et innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés en ta présence, Seigneur, mon roc et mon défenseur. Eh bien, j'ai choisi pour thème de cette prédication de m'en tenir à la méthode d'exposition juive, celle que l'on suit dans les synagogues, à savoir, vous le savez, la Torah, le Pentateuque, a été divisé en autant de parties qu'il y a de semaines, techniquement en 54 parties, pour tenir compte des ajustements. Et donc chaque semaine, on commente la partie qui nous est destinée par le calendrier. Et il se trouve que, par exemple, hier, dans toutes les synagogues du monde, on lisait, alors chaque partie s'appelle une paracha, ça veut dire une section. Et hier, la section donc de la semaine, la paracha de la semaine, portait sur Teruma, c'est le passage que je vous ai lu tout à l'heure, à savoir ce moment de l'Exode où finalement Dieu donne ses instructions à Moïse pour effectivement construire un tabernacle. C'est un sujet très très important qui va durer plus de 5 parachiotes, donc j'imagine que dans les synagogues, pendant plus de 5 semaines, on va commenter cette construction du tabernacle. Les commentateurs ont relevé d'ailleurs la disproportion, il n'y a que 31 versets consacrés à la création du monde, mais plus de 350 versets consacrés à cette édification du tabernacle, un rapport de 1 à 10, assez surprenant. Et donc, cette paracha Trouma, le mot Trouma veut dire une offrande, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous m'offrirez et ils m'offriront une offrande, une Trouma. Et d'ailleurs, un mot assez intéressant parce que ça veut dire offrande, mais ça vient d'une racine qui veut dire élever. Donc, c'est une manière pour l'homme de s'élever que de donner, que de contribuer à un projet collectif. On va bien évidemment commenter cela un petit peu plus précisément. Et donc, factuellement, que vous ayez une idée du contenu de cette paracha, donc qui dure quelques chapitres, eh bien, c'est la description, vraiment par le menu, des différents éléments de ce tabernacle. Vous saviez, cette structure mobile qui suivait les Hébreux dans le désert, que l'on démontait chaque jour et que l'on remontait. Et bien sûr, c'est l'ancêtre du temple, mais ce tabernacle avait été accompagné, donc la migration du peuple à travers le désert du Sinaï avant de rejoindre, bien sûr, la terre promise. Alors, de quoi je voulais vous parler ? En fait, je voulais vous parler d'un sujet qui nous anime tous très très fort en ce moment, depuis quelques années, ce qu'on appelle le fameux vivre ensemble, le fait d'arriver à vivre ensemble, mais pas seulement de vivre ensemble, de vivre ensemble selon un horizon commun, d'arriver à constituer un peuple ensemble, un peuple animé de valeurs communes et peut-être de projets communs. Et l'on va voir que, quelque part, c'est le sujet caché, c'est le fil directeur de toute cette construction du tabernacle. Bien sûr, il s'agit d'une édification spirituelle, il s'agit de s'élever, comme le dit le mot même de Trouma, d'offrande. Mais en fait, à travers ce sujet, il nous est parlé des valeurs. Qu'est-ce qui fait que les hommes arrivent à tenir ensemble dans une société, dans un peuple et pour faire des choses communes? Alors, pour aborder ce sujet, je vais le faire de deux manières. Je vais tout d'abord parler de la sainteté, parce que le tabernacle est une structure de sainteté. On va voir que ça a un sens précis pour la tradition juive, qui est partagée, j'imagine, par beaucoup de spiritualité aussi, bien sûr. Et puis après, dans un deuxième temps, je réfléchirai au tabernacle comme une institution qui institue la confiance entre les hommes. Il y a d'ailleurs des réflexions sociologiques chez certains sociologues contemporains tout à fait intéressants qui voient les institutions comme des structures destinées à stabiliser la confiance. Eh bien, il se trouve que c'est une thématique qui est déjà abordée à travers celle du tabernacle. Revenons donc au premier aspect que j'aimerais développer. En quoi le tabernacle est une institution de sainteté et qu'est-ce que ça fait ? Quelle fonction elle est destinée à avoir, cette sainteté ? Alors, si les commentateurs ont fait le lien entre ce récit du tabernacle très très long, plus de 350 versets, et le récit de la création, c'est parce qu'en fait, ils ont des points communs extrêmement forts. D'abord, dans le récit lui-même, je ne vais pas le démontrer ce matin, mais dans la manière, dans les mots qui sont employés, il y a des parallèles. Quand bien même il y a ce rapport de 1 pour 10, en fait, la structure du récit est un petit peu la même, un vocabulaire commun est le même, et j'aimerais argumenter ce matin que s'ils sont mis en relation, c'est qu'ils partagent justement entre eux ce fil directeur de la sainteté. Qu'entend-on par sainteté dans le judaïsme ? Eh bien, le fait que Dieu, de manière curieuse, pour créer un monde, se soit retiré lui-même. Si l'on part d'une situation de base où Dieu occupe toute la place, eh bien, c'est un mystère qu'il puisse exister un monde. Comme le dit un fameux commentateur, Léon Ashkenazi, le mystère, ce n'est pas que Dieu existe, qu'il y ait un Dieu, le mystère, c'est qu'il y ait un monde. Parce qu'effectivement, si Dieu est premier, celui qui a été, celui qui est et celui qui sera, qu'il prend toute la place, comment il arrive à faire place à autre chose que lui-même ? Et là, il y a cette très belle théorie mystique, mais qui a irrigué tout le judaïsme et la pensée rabbinique, que pour créer autre chose que Dieu, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen. Dieu ne va pas être en expansion, parce qu'au-delà de lui-même, c'est encore lui-même que l'on trouve. Donc, il faut au contraire qu'il arrive à creuser en lui, qu'il arrive à annuler un point de son essence divine pour créer autre chose, et c'est cette autre chose qui va créer le monde. Et l'on voit aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le psaume 19, que le thème de la création dans le judaïsme est quelque chose de cosmologique. On nous raconte qu'un monde est créé, mais il a une vertu éthique immédiate. C'est-à-dire comment on crée quelque chose de soi-même, eh bien en se mettant en retrait, en annulant un petit peu de soi, pour laisser une place à l'autre. Voilà le thème fondamental de la cosmologie dans le judaïsme. Dieu se retire, Dieu s'annule en un point de lui-même pour permettre à un monde d'exister et un monde dans lequel l'homme puisse exister aussi, parce que sinon il serait enseveli sous la puissance divine. Et d'ailleurs cela est dit dans le vocabulaire hébraïque de manière assez belle, le mot hébraïque pour dire monde, univers, qui d'ailleurs est une nomination aussi bien spatiale que temporelle, c'est le mot « olam », et c'est proche d'une autre racine hébraïque qui veut dire « ne'elam », caché, et tout ça résume de manière parfaite le fait que pourquoi un monde existe, mais parce que Dieu est caché. Dieu, dans sa grande bonté, a cette générosité de ne pas apparaître pour laisser un monde à l'homme, c'est la manière fondamentale dont on conçoit la création dans le judaïsme. Mais alors, donc, il y a un problème immédiat, c'est que si Dieu est caché, nous les hommes, on peut vivre parfaitement dans ce monde en pensant que Dieu n'existe pas, en pensant que les choses arrivent de par nos propres forces. Il y a des passages fameux dans la Bible qui décrivent ce tropisme humain de penser qu'il est lui-même à la source de tout, qu'il en est le bénéficiaire et que finalement Dieu n'y est pour rien là-dedans. C'est la tour de Babel, bien sûr, qui décrit d'ailleurs au passage les conséquences désastreuses de ce genre de pensée, qui vire vite au totalitarisme et certainement pas à une vie en société. Mais donc, il faut réaménager pour pouvoir se souvenir de Dieu des fenêtres de visibilité. Et dans le judaïsme, cela va prendre deux formes essentiellement. Une forme selon le temps, qui est le Shabbat, et une forme selon l'espace, qui est précisément le tabernacle. Il faut faire réapparaître Dieu de temps en temps dans cette vie que l'on consacre de manière si créative et si active à réparer le monde, à faire avancer le monde, à créer toutes sortes de structures. Eh bien, mais il faut aussi des moments où l'on arrête, et il faut faire revenir Dieu dans l'image, pour ainsi dire, Dieu qui lui-même n'est pas une image. Mais et donc, c'est la raison du Shabbat. Il faut cesser, de même que Dieu a cessé lui-même au bout de 6 jours sa création pour laisser une place à l'homme. Alors nous-mêmes, il nous faut cesser dans le temps pour laisser une plage de visibilité, pour laisser une place à nouveau à Dieu, ce Dieu que l'on oublie si facilement dans nos œuvres. Et dans la dimension de l'espace, il faut aussi réserver un lieu pour Dieu, pour le faire apparaître, pour lui donner une expérience, pour que ce Dieu qui a créé puisse investir la scène sociale, sinon on l'oublierait encore, et c'est le tabernacle. C'est ainsi que les sages ont conçu le tabernacle et le lien intime avec la création du monde. Le mot hébreu pour dire tabernacle, c'est Mikdash, où l'on reprenait la racine Kodesh, c'est-à-dire effectivement la sainteté. Et donc pourquoi ce tabernacle est intimement lié avec la création? Je l'ai dit tout à l'heure, la création c'est quelque part le moment où Dieu se retire pour laisser une place à l'homme. Eh bien le tabernacle c'est exactement l'inverse, c'est le moment, c'est le lieu où l'homme se retire pour laisser une place à Dieu, pour le faire réapparaître. Donc voilà la structure intime du Mikdash, son lien avec la création et son lien avec la sainteté. Le Mikdash est une institution qui instaure sa sainteté, c'est-à-dire qui fait revenir Dieu dans l'image, Dieu lui-même qui est caché. Et donc, ça c'est l'aspect, je dirais, spirituel du Mikdash, du tabernacle. Donc pour se dire, j'ai commencé mon sujet sur l'aspect social. Quelle est la valeur sociale de ce tabernacle? Eh bien, elle est tout à fait remarquable et elle est liée au deuxième verset que je vous ai lu tout à l'heure. Ve'asuli mikdash, et ils me feront un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et je résiderai au milieu d'eux. Et là, on comprend tout de suite le paradoxe. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Il faut construire le mikdash. Il faut construire le sanctuaire parce qu'encore une fois, c'est l'acte social par lequel on rend Dieu visible, ce Dieu qui est caché, qui est si magnifiquement caché qu'on pourrait même l'oublier. Ça fait partie de sa générosité. Mais donc, il faut construire le Mikdash, il faut avoir des marqueurs spirituels dans la société. Mais le paradoxe, et là c'est peut-être la beauté ultime de la chose, c'est que C'est que Dieu ne va pas résider dans son sanctuaire. Donc il n'y a pas d'illusion dans le judaïsme, mais dans le protestantisme et dans beaucoup de religions non plus. Il n'y a pas d'illusion que Dieu pourrait résider à un endroit, que ce serait un foyer d'expérience et que la religion consisterait à se relier à cette intensité. Non, non, le Mikdash est vide. Et d'ailleurs, plus tard dans le temple, c'est ce qui va choquer par exemple les Romains qui, quand ils vont saccager le temple, s'attendent à trouver tout un tas de choses, de richesses, de statues, une vision plénière de Dieu, une vision débordante de Dieu, mais au contraire, le Mikdash va jouer sur le vide. C'est un endroit où l'on met en scène le vide, où l'on met en scène le retrait divin pour mieux le rendre présent. Parce que si Dieu est présent, il n'est effectivement pas présent dans la structure, il est présent chez ceux qui le construisent, il est présent dans le cœur des constructeurs, et ça c'est la beauté de la chose. Et si l'on lit tous les aspects, tous les moments de cette grande dialectique de la création, de cette grande dialectique de la sainteté, eh bien on a trois temps assez merveilleux, et ça nous donne aussi l'idée de cette cohérence. Je vous l'ai dit, Dieu crée un monde. Pourquoi un monde existe? Parce que Dieu se retire pour laisser une place à l'homme. Mais donc ce Dieu, il faut le faire réapparaître. Pourquoi faut-il des structures de sainteté? Eh bien pour que l'homme, à son tour, fasse réapparaître Dieu. Et une fois cet acte de sainteté, d'édification collective du tabernacle accompli, où Dieu résiste? Eh bien non pas dans cet acte social institutionnel, mais au contraire dans le cœur des constructeurs. Donc on a une dialectique intéressante à la fois spirituelle et sociale. Oui, il faut construire le tabernacle, il faut des institutions religieuses pour manifester notre souci de Dieu, le faire réapparaître sur la scène sociale, mais sans illusion que ce sont ces institutions qui suffisent à incarner l'expérience spirituelle. Pas du tout. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est que Dieu réside dans nos cœurs. Il réside dans l'intériorisation des valeurs, dans l'éthique, et c'est un travail d'homme, évidemment, de tous les jours, que de faire résider Dieu dans son sanctuaire, son véritable sanctuaire étant les hommes. Ça, c'est le premier volet que je voulais traiter, le Mikdash, le sanctuaire, comme une institution qui instaure la sainteté avec une fonction sociale très forte de la sainteté, parce qu'évidemment, des hommes qui construisent ensemble un Mikdash et qui font porter Dieu en leur cœur, ce sont des hommes qui sont réunis dans une communauté, qui sont réunis dans un projet. C'est intéressant, d'ailleurs, je fais un petit excursus. Il y a trois mots pour désigner le vivre ensemble, quelque part dans le judaïsme. Il y a le mot de peuple, âme. Âme et le peuple se constituent avec la sortie d'Égypte. C'est le premier moment fondateur du peuple. C'est d'ailleurs là qu'apparaît ce mot âme, qui vient d'une racine im, qui veut dire avec. Qu'est-ce qu'un peuple? De manière très factuelle, à un premier niveau, ce sont des gens, ce sont des personnes qui vivent quelque chose, un événement historique ensemble, avec. Et puis il y a un deuxième terme qui vient du mot Eda, qui veut dire communauté. Déjà là on est à un autre stade, et ce mot de Eda vient d'une racine hébraïque qui signifie témoignage. Et ce mot est utilisé à propos du mont Sinaï. Donc une communauté, c'est non seulement un peuple, des gens qui sont ensemble, qui savent qu'ils ont quelque chose à faire ensemble, mais qui déjà sont témoins collectivement d'un événement. Et le troisième stade, c'est le stade qu'on utilise justement avec le tabernacle, c'est le mot de Keila, qui veut dire une communauté structurée par un projet. Donc on voit bien les trois niveaux, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le peuple, bon, ce sont des personnes qui sont ensemble, qui forment une collectivité, mais il y a le témoignage, le fait d'avoir été témoin au Sinaï, et le fait en plus d'avoir un projet. Et donc on voit aussi que ce qui fait peuple, ce qui constitue un peuple, c'est l'intégration de plusieurs dimensions, c'est l'expérience collective, c'est le témoignage du passé, mais c'est l'expérience du présent aussi, bien sûr, avec le témoignage du mont Sinaï, d'une parole révélée, et c'est l'orientation vers l'avenir, évidemment, le fait d'avoir un projet commun. Et on vient de voir qu'effectivement, le tabernacle répondait à cette fonction. Il incarne le souci spirituel de rendre Dieu présent, mais aussi il oriente ce peuple vers un projet, à savoir continuer de rendre présent. J'aimerais aller un petit peu plus loin et dire, une fois qu'on a dit tout ça, en quoi finalement le tabernacle, mais toute institution en général, et là je me reconnecte avec encore une fois des travaux assez actuels de certains sociologues ou anthropologues qui voient de plus en plus les institutions comme des dispositifs de confiance. Et je terminerai par le fait qu'à mon avis cette confiance est mise à mal par un certain nombre de projets, le transhumanisme, le libertarisme qui s'exprime, et qui il y a en ce moment une pensée anti-institutionnelle qui cherche à se débarrasser de toutes les médiations. Certes, un petit peu lourde parfois de nos vies quotidiennes, l'administration, l'État, mais il y a comme une charge presque concertée, en tout cas auprès de certains mouvements, beaucoup aux États-Unis mais aussi en France, anti-institutionnelle. Et je pense que là, on manque une vérité dont les spiritualités se sont chargées de nous enseigner. C'est pour ça que je veux faire ce petit détour sur la confiance. Pour le faire, je vais me servir du tabernacle du temple à Jérusalem. Vous le saviez, une fois l'an, à Kippour, le temple, donc héritier du tabernacle, était l'objet d'un culte tout à fait particulier. C'est un culte qui durait une journée. D'ailleurs, dans les synagogues du monde entier, à Kippour, on fait le récit de ce qui se passait à Jérusalem du temps du temple. Donc il y a le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui se prépare, fait ses ablutions, se purifie, on lui remet des vêtements dont chaque partie est symbolique. Il y a les Lévi'im, les Lévites, qui effectivement ont un rôle tout à fait important. C'est un rite qui dure une journée, plusieurs fois il se change, plusieurs fois il refait ses ablutions. Et le but ultime de toute cette journée, de cette préparation où il y a effectivement moult sacrifices aussi accomplis par le prêtre lui-même, le fin du fin, c'est qu'à un moment il pénètre dans le sanctuaire, dans le saint des saints. Vous savez, il y avait une structure concentrique dans le temple, d'ailleurs dans le tabernacle aussi, et il y avait cet espace absolument mystérieux où une seule personne pouvait pénétrer, le grand prêtre et personne d'autre, et une fois l'an, simplement, à Kippour, à aucun autre moment. Pour faire quoi ? Pour prononcer le nom de Dieu. Alors, petite anecdote qui va peut-être d'ailleurs vous faire sourire, mais qui montre le sérieux avec lequel ce côté unique était joué. Une seule personne, une fois l'an, les sages s'étaient posé la question, mais si le grand prêtre, par exemple, pénétrait dans ce Saint des Saints pour y prononcer le nom ineffable de Dieu et qu'il mourait, personne ne pouvait aller le chercher et entrer, puisque seul le... Donc il était attaché, figurez-vous, par une chaîne, et au cas où il mourait, on pouvait le ramener de l'extérieur pour, effectivement, respecter ce commandement de une seule personne, une fois l'an. Donc, notation amusante et à la fois qui nous montre tout le sérieux avec le... Et alors, si on réfléchit à ce rite quand même étonnant, on se dit, mais sur quoi ça repose ? Quel est l'intérêt d'avoir une personne qui prononce une fois l'an le nom ineffable que le peuple n'entendait pas ? C'était censé être le nom de Dieu qui se transmettait de Kohanim en Kohanim, un nom de 72 lettres, nous dit-on. On sait beaucoup de choses extérieures sur ce nom, mais personne ne le connaît. À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert donc ce grand prêtre, lui seul, une fois dans l'année, qui prononce un nom ineffable, qui, soi-disant, ne se prononce pas, et dont le peuple n'entend même pas la prononciation, et qui ressort, sachant que toute la valeur de ce rite était de procurer l'expiation. Toute la valeur, le mot Kippour, d'ailleurs, veut dire expiation. Donc c'est quand même un enjeu spirituel lourd. Les personnes venaient à Jérusalem trois fois l'an et à Kippour aussi pour obtenir l'expiation. C'était une religion de l'expiation. L'étude n'existait pas, la prière non plus, la loi n'avait pas encore été développée. Donc l'expérience centrale religieuse reposait sur cette expiation. Et finalement, elle était confiée à un être unique qui le faisait une fois dans l'année dans un lieu tenu secret, un lieu vide, encore une fois, qui avait beaucoup surpris les Romains, pour prononcer un nom que personne n'entendait. Donc là, on a une cumulation de paradoxes. Eh bien, la seule valeur spirituelle de tout cela, c'est que ça repose sur la confiance, finalement. Le peuple, une fois l'an, confie toute son espérance, toute sa charge spirituelle à un homme, encore une fois, auquel on fait confiance de pouvoir se préparer de manière exacte, parce que le peuple, le Cohen devait entrer dans ce lieu en état de pureté. D'où toute la difficulté, tout le cérémonial qui précédait. Et donc tout reposait finalement sur la confiance que cet homme-là, alors qu'il y avait mille occasions de déraper, quand on prend la minutie de la cérémonie, à chaque étape, ce cérémonial peut déraper. Donc d'où l'extrême attention. Pour cumuler, pour converger en un moment unique qui durait quelques secondes, et d'où il ressortait en ayant procuré l'expiation au peuple. Tout ce cérémonial ne tient que par une seule chose, la confiance, la croyance collective, effectivement, que cet homme-là, effectivement, dont on lui fait garant d'être en état de sûreté, on lui fait garant d'avoir pénétré de la manière adéquate, parce qu'encore une fois, personne ne pouvait en être témoin, et on lui fait garant aussi de prononcer de manière exacte, d'une manière qui lui a appris, qui a été transmise de manière adéquate par les générations précédentes. Donc une somme de confiance emboîtée très très vaste, qui culmine en un moment unique, et finalement... Tout cela, effectivement, reposait sur la confiance, et c'est une métaphore du fait même que l'institution, ce que j'ai dit tout à l'heure du tabernacle comme une institution spirituelle, repose finalement sur une chose extrêmement ténue, qui est à la fois la chose la plus spirituelle et qui est au cœur de l'homme, qui est la confiance. Donc, quelque part, le texte biblique, effectivement... corrobore cette intuition de nos sociologues ou de nos anthropologues actuels sur le fait que les institutions sont des manifestations sociales, architecturales de la confiance. C'est exactement ça qu'était le temple, parce que effectivement, d'un point de vue purement architectural, encore que ce soit très intéressant de voir l'agencement de l'espace, il n'y avait pas de richesse, il n'y avait pas de statues en or, il n'y avait pas de trésors cachés comme le pensaient les Grecs ou les Romains. Il n'y avait qu'un espace vide qui était destiné à être animé spirituellement, effectivement, par un phénomène purement linguistique. Quelqu'un d'unique qui, une fois par an, prononce un fameux mot qui est censé être le mot ineffable de Dieu, et tout ça reposant sur une confiance collective d'un peuple. Alors voilà, si l'on collige en quelque sorte toutes les idées exprimées autour de ce tabernacle, eh bien nous arrivons à mon avis à une leçon extrêmement actuelle. Qu'est-ce qui fait un peuple? Qu'est-ce qui constitue un peuple? Eh bien cette intuition qu'il faut de la sainteté. Il faut faire une place à Dieu, il faut faire une place à quelque chose qui nous dépasse, parce que cela exprime notre reconnaissance que nous arrivons dans un monde qui nous précède. Donc non, la société n'est pas tout, elle instaure beaucoup de choses, mais elle est précédée par quelque chose de fondamental qui est l'existence, et il s'agit de la reconnaître. Et quand bien même on fait tout pour faire améliorer cette société, réparer ce monde, etc., eh bien il faut faire une place à cette reconnaissance, il faut la faire dans le temps, par le Shabbat ou par toute autre prière, il faut la faire dans l'espace, par le tabernacle, avec non pas l'illusion que Dieu va y résider, mais qu'il va résider en nous. Donc cette conscience, effectivement, est fondamentale pour se constituer en peuple. Le social n'épuise pas tout, il faut aussi faire hommage à ce qui dépasse. Et puis il faut se faire confiance. Bon, alors c'est une phrase bien simple, mais il faut se faire confiance avec la hauteur de vue qui se dégage de ces commentaires. Et je le dis de manière non pas anodine, parce que il se trouve que peut-être parmi vous, certains s'intéressent aux nouvelles technologies, aux rêves transhumanistes et à tout ce qui a l'air d'être une révolution assez importante. Vous avez peut-être entendu parler du Bitcoin. Alors Bitcoin, vous allez me dire, c'est cette monnaie virtuelle dont certains, enfin qui a fait des bons spéculatifs, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette monnaie virtuelle, c'est qu'elle repose sur une technologie qu'on appelle le blockchain, dont le cœur est justement la suppression de la confiance. Et je pense que ça m'a tout l'air d'être une révolution anthropologique qui dépasse l'intérêt de la monnaie virtuelle. Le cœur du blockchain, c'est que c'est tout l'ensemble des transactions. En général, une transaction est toujours garantie par un tiers. Quand on a un contrat, ce sont deux personnes qui lient contrat, mais ce contrat est garanti par une institution tiers. C'est vrai dans les transactions financières, c'est le tiers garant, c'est vrai dans les institutions sociales en général. Et toute transaction, quand bien même, encore une fois, elle a lieu entre deux individus précis, est garantie par quelque chose du plus large, qui est justement quelque chose d'institutionnel. Et je viens de montrer combien les institutions, finalement, sont nécessaires parce qu'elles manifestent la confiance. Sans cette denrée de base de la confiance, rien n'existe. Eh bien, vous vous renseignerez de manière plus précise sur la technologie du blockchain, mais justement la révolution du blockchain fait que le tiers de confiance est supprimé. Il y a ce qu'on appelle le smart contract, des contrats intelligents qui auto-génèrent un processus d'authentification qui fait que finalement on n'a plus besoin d'un tiers, plus besoin d'une institution. Et c'est pour ça que d'ailleurs les banques s'affolent ou même les États s'affolent autour de cette nouvelle technologie, parce que c'est une remise en cause fondamentale, encore une fois, de quelque chose de fondamental qui anime nos sociétés, la confiance. Alors, j'en terminerai simplement par cet appel collectif dont je sais que vous partagez déjà le souci. Je pense que les spiritualités, nos spiritualités, le judaïsme, le christianisme, le protestantisme, le catholicisme, toute religion spirituelle qui fonde la dignité humaine sur la reconnaissance que quelque chose nous dépasse et que cette denrée, cette reconnaissance, elle doit s'incarner dans la société par des institutions qui reposent sur la confiance et qui scénarisent en fait cette confiance en ce qui nous dépasse, eh bien nous avons un rôle à jouer parce que je pense que beaucoup de choses sont en train de se défaire. En tout cas, il y a un rêve assez important de par le monde aujourd'hui, appelons-le libertarisme, appelons-le transhumanisme, enfin tous ces mouvements de pensée qui sont assez puissants et qui ont déjà des résultats, je pense, cherchent à mettre à mal cette denrée fondamentale, et je pense qu'on a une mission, nous collective, nous spiritualité, de faire entendre que certaines choses ne peuvent pas être démontées, ou alors avec d'immenses dégâts pour l'humanité, d'immenses dégâts pour la dignité humaine. Je pense que cette lecture du tabernacle nous remet en tête combien il est important que les hommes œuvrent ensemble à édifier des structures, parce que non seulement ils édifient peut-être de très belles choses, comme ce très bel oratoire, mais au-delà bien sûr des pierres et au-delà de la beauté architecturale, c'est le cœur des hommes qui est en jeu et notre capacité d'être ensemble. J'allais conclure, mais c'est une déformation professionnelle, par un Shabbat Shalom, mais non, certainement pas. C'est un dimanche d'élévation, de Trouma que je vous souhaite, un dimanche de paix. Merci.